Bénédiction. J'ai réussi à gagner le cœur de la grand-mère avec deux choses. Premièrement, j'ai aimé profondément dès la première journée la nourriture haïtienne et particulièrement le maïs moulu, ce qui était peu envisageable de par les jeunes Haïtiens eux-mêmes. Mais moi, le maïs moulu sauce pois, Donc la grand-mère, j'ai gagné son cœur comme ça. Et puis après ça, en parlant créole avec elle, en apprenant le créole, mes conversations avec en fait, c'est ma reine, la grande-tante, qui était là et qui agissait un peu comme une grand-mère. En gagnant la grande-tante, j'ai assurément eu l'approbation de toute la famille. Bon, la belle-mère a été facile à convaincre aussi. Le beau-père, lui, j'ai juste eu à parler politique avec lui. Et puis, je suis rentré dans ses bonnes grâces. Ma toute première conversation avec mon beau-père, toute la famille s'était réfugiée dans la cuisine et m'ont laissé seul avec celui qui allait devenir mon beau-père. Et la première question qu'il me pose seul à seul, c'est: Florent, qu'est-ce que la démocratie? Et j'ai entendu rire dans la cuisine parce que moi j'étais pris pendant une heure et demie à parler avec mon beau-père de politique. Une chance que le sujet m'intéressait. Mais ça rigolait bien, ça fait partie des anecdotes de nos fréquentations. Bonjour Rachel, bonjour Ocilia, bonjour Mona, bonjour Chantal, bonjour Diana, bonjour Juan Alberto. Bonjour Denise, cette fois-ci de Laval. Bonjour Juana Ramon. Bonjour à Evelyne. Bonjour Nora et bonjour à votre époux. Donc on va commencer. Sujet un peu long aujourd'hui, donc on veut essayer de ne pas trop perdre de temps en préambule. Donc prions. Seigneur, nous te bénissons pour cet instant que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ton enseignement que nous nous apprêtons, Seigneur, à recevoir. Ouvre notre entendement, ouvre notre pensée. Permets-nous, Seigneur, d'être cette argile bien hydratée entre tes mains, afin, Seigneur, qu'elle soit malléable et qu'elle puisse former le vase que tu désires que nous formions. J'appelle ta bénédiction sur ma sœur, ta bénédiction sur mon frère. Ouvre notre compréhension et permets, Seigneur, à ce que ta parole trouve un bon terreau, un bon terrain pour s'implanter, croître et porter un fruit qui te sera agréable et profitable jusque dans l'éternité. Merci Seigneur pour ta présence. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous le passage dans Ésaïe 61. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles aussi dans 1 Timothée au chapitre 4. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et la section de phrase qu'on étudie cette semaine, la troisième phrase du premier verset, il m'a envoyé, il m'a envoyé pour. On a vu tout au long de cette semaine le terme envoyé, le terme shalach, Shalach, qui revenait 847 fois dans l'Ancien Testament. Et on a pris l'occasion de ce texte pour étudier l'appel de Dieu dans la vie du croyant, faire la distinction entre le service auquel nous sommes tous appelés, et le ministère qui n'est toutefois pas un appel pour tous. Et on a vu comment on se préparait pour entendre, mais comment on entendait tout d'abord l'appel de Dieu, la voix de Dieu, comment on se préparait pour exécuter cet appel ou ce mandat, comment on partait, on démarrait, dans quelles conditions on devait partir pour l'exécution du mandat. Et aujourd'hui, on va parler de l'exécution en soi. Comment on sert comment on mène une vie de service, que ce soit au niveau du service dans l'Église, que ce soit au niveau du ministère en soi, quel que soit l'appel, le service, l'occasion de d'œuvrer pour le royaume de Dieu, comment ça se fait, avec quelle attitude et avec quel cœur. Donc, je vous invite à ouvrir avec moi dans un livre qui m'est très cher, le premier épître de Paul à Timothée. On se rappelle que Timothée, c'est ce fils spirituel que Paul aime précieusement ou abondamment et qu'il va envoyer à l'église d'Éphèse pour asseoir l'église correctement sur des bases bibliques, pour asseoir aussi les pratiques, la façon de faire au sein de l'église. Et plus tard, Timothée va être rappelé auprès de Paul pour continuer son service auprès de son père spirituel. On va lire donc chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, du verset 11 jusqu'au troisième verset du prochain chapitre. Donc je lis pour vous, chapitre 4, verset 11, « Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Le chapitre 5. « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Comme j'ai dit, plusieurs points qu'on voit aujourd'hui en matière d'exécution du mandat. C'est bien beau de savoir que Dieu nous appelle, que Dieu nous amène à servir et que Dieu veut nous utiliser. Mais encore faut-il le servir de manière qui soit agréable et approuvée par Dieu. Alors, on va prendre ces différents versets, on va voir plusieurs points de façon succincte et brève. On pourrait passer une semaine complète sur chacun des points, mais on va essayer d'être assez concis et peut-être qu'à l'occasion, on aura l'opportunité ultérieurement de revenir sur chacun de ces points. Donc, le premier point qu'on voit dans le verset 12, le chapitre 4, le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi et en pureté. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, action, charité, esprit, foi et pureté. Être un modèle. Nous devons savoir tout d'abord que nous ne nous servons pas nous-mêmes. Quand nous servons Dieu, nous servons nécessairement aussi notre prochain. Dieu ne dépose pas une onction sur ta vie pour te bénir toi-même. Dieu ne donne pas le don de guérison pour s'imposer soi-même les mains et se guérir soi-même, s'auto-guérir soi-même d'une maladie. Les dons, les talents, l'appel, le ministère auquel Dieu peut nous convier est toujours, toujours axé vers autrui. Et une des facettes du service, une des facettes du ministère, une des facettes de la vie chrétienne en général, c'est d'être un modèle pour les autres, un modèle pour ceux qui n'ont pas la foi, un modèle pour ceux qui ne font pas partie du corps de Christ et qui portent les regards vers nous pour savoir qu'est-ce que Dieu pense, pour savoir ce que Dieu demande, pour savoir comment un représentant du royaume de Dieu se comporte. Donc chacun d'entre nous sommes appelés à être des modèles. Ça veut dire quoi être un modèle? Ça veut dire que le regard des gens est placé sur toi. Ça veut dire que les gens scrutent tes actions, scrutent tes paroles, scrutent ton comportement, ton attitude. Lorsqu'on va parler d'être un exemple, ils vont nous dire d'être un exemple en parole. Donc tes mots comptent parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu exerces une influence et parce que tu exerces la profession de modèle auprès des frères et des sœurs en la foi, mais aussi auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu dois faire attention à ton langage. Tu dois faire attention à tes actions. Il y a déjà quelqu'un qui a dit que l'image la plus rapprochée que quelqu'un aura de Christ, de Dieu, ça sera l'image que toi, en tant que chrétien, tu vas projeter. Alors, tu veux t'assurer que ton image dans tes paroles, dans tes actions, dans ton comportement, dans ton attitude, soit effectivement celle qui se doit. Il va nous dire aussi d'être un exemple, donc en parole, en conduite, en charité, donc dans comment j'exerce l'amour. On se rappelle ce commandement que Jésus va donner à ses disciples. « Aimez-vous les uns les autres, car à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc la marque du discipolat, la marque du fait d'être un disciple de Christ, la marque de commerce, ce qui représente effectivement ton appartenance à Christ, est à la base l'amour que tu témoignes envers les gens qui sont autour de toi. Donc, être un modèle en parole, en action, en amour, on nous parle aussi d'être un modèle en esprit. Quand on parle d'esprit, ici, on ne parle pas de l'esprit de Dieu, on ne parle pas du pneuma, on ne parle pas de la force qui nous vient de l'Esprit Saint, mais on parle ici plutôt de l'attitude en général. Vous savez, il y a le comportement, il y a aussi les réactions. Il y a les actions, il y a aussi les réactions. Et les réactions, c'est un peu plus ce qui est instinctif chez nous. Un peu comme quand on nous marche sur le pied et qu'on crie « ouch » ou qu'on crie en bon québécois « aïe aïe ». Un peu comme quand tu te frappes un marteau sur le pouce et qu'il y a un cri qui va sortir. L'apôtre Paul va dire à Timothée d'être tellement maître de lui-même, d'être tellement conscient de son rôle de modèle que même ses réactions, il en vient à les travailler, à les préparer afin d'être aussi un modèle en réaction, même dans l'instinctif, que l'on soit aussi un modèle pour ceux qui nous entourent. Bien sûr, en foi. Donc, quel est le degré de foi que tu as? Je vous ai déjà dit qu'il y avait des personnes qui m'avaient précédé, un pasteur en particulier, un ami qui m'est précieux dans l'œuvre de Dieu, qui était passé par des moments difficiles avant que moi je ne passe par la maladie. Et son exemple dans les moments terribles qu'il avait dû passer ont été pour moi un exemple aussi. Et j'ai calqué mon comportement à ce que j'avais perçu chez lui, bien sûr en l'adaptant avec ma personnalité et avec ce que Dieu voulait faire à travers moi. Mais j'avais pris exemple dans la foi, dans l'engagement, dans la fidélité envers Dieu de ce pasteur, de ce frère, qui a par la suite été donc un modèle pour moi. Et enfin, un exemple aussi en pureté. Et quand on parle de pureté, on parle de pureté dans l'ensemble du terme, pureté quant à la sanctification, pureté quant au respect de la parole de Dieu et au respect des prescriptions de la parole de Dieu. Donc mener une vie qui soit intègre à la parole et à la pensée de Dieu. Donc premier point, donc être un modèle, l'importance d'être un modèle pour les frères et les sœurs. Deuxième point, toujours dans le service de Dieu, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ici, la pensée qui est véhiculée, qui est un peu malmenée par la traduction en français, lorsqu'on disait de s'appliquer, c'était un terme qui voulait dire de s'attacher. Donc, Paul était en train de dire « attache-toi à la parole, à la lecture plutôt, attache-toi à l'exhortation et attache-toi à l'enseignement. » Foncièrement, ce que Paul disait, c'était que la parole de Dieu devait avoir une importance primordiale dans la vie de Timothée, ce jeune ministre, ce jeune serviteur de Dieu. Et la parole de Dieu doit avoir aussi cette importance primordiale dans nos vies. Jusqu'à un certain point, on pourrait penser que c'est une vérité de la palisse, tout simplement parce que il devrait être normal d'étudier la parole de Dieu, il devrait être normal de lire la parole de Dieu, il devrait être logique de passer du temps. Mais on en conviendra tous et chacun que très souvent, lorsque la pression vient, lorsque l'horaire vient à être un peu plus chargé, une des premières choses qui prend le large, une des premières choses qui est abandonnée ou laissée de côté très souvent dans nos vies, va être la prière, le temps de communion personnelle avec Dieu et le temps de lecture et d'étude de la parole de Dieu. Alors Paul, et ça c'est bon même pour un ministre, c'est bon pour, même pour un pasteur, des fois l'horaire est tellement chargé qu'on fait l'erreur même en tant que pasteur de reléguer la lecture et notre temps d'étude personnelle de côté, alors que c'est primordial à l'exécution même du service et du ministère que nous faisons. Et quand je parle de l'importance de la parole, pour un enseignant de la parole ou pour un pasteur, je ne parle même pas ici du temps que l'on passe à préparer un enseignement pour distribuer ou officier devant les gens. Je parle vraiment de l'étude personnelle, du temps de dévouement, de dévotion personnelle que nous avons pour notre propre bien et non pas en vue d'enseigner par la suite aux gens. Donc, il nous dit de mettre une emphase particulière donc à l'étude de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, puis à l'exhortation et à l'enseignement. L'exhortation, c'est foncièrement les conseils pour mener une vie pratico-pratique devant Christ. Donc, savoir trouver dans la parole de Dieu ce qui est notre source de comportement, ce qui guide notre comportement. Trouver dans la parole de Dieu et savoir étudier et apprendre de la parole de Dieu, ce qui va guider comment on fonctionne en tant qu'être humain, comment on fonctionne en tant qu'enfant de Dieu durant cette vie terrestre. Lorsqu'on va parler de l'enseignement, on va parler ici plutôt d'une question doctrinale, d'une question plus profonde au niveau de l'étude, qui n'est plus nécessairement strictement une question d'apprendre comment je dois me comporter et comment je dois vivre. Mais là, on apprend à connaître davantage Dieu, apprendre à connaître sa pensée, apprendre à connaître son positionnement par rapport à tel et tel et tel sujet. C'est sûr que si on est des représentants de Dieu, on doit donc effectivement connaître sa pensée sur les sujets d'actualité, sur les sujets de société qui nous entourent. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce que nous traversons actuellement? Non seulement ce qu'elle nous dit pour pouvoir nous comporter comme il se doit, mais aussi quelle est la pensée de Dieu sur la maladie, quelle est la pensée de Dieu sur la guérison, quelle est la pensée de Dieu tel ou tel autre fait de société. Donc, premier point, être un modèle. Deuxième point, découvrir l'importance de la parole de Dieu, ou redécouvrir peut-être pour plusieurs l'importance de la parole de Dieu. Le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Deux points ici. Découvrir le don que Dieu nous a donné, À chacun d'entre nous, Dieu a donné des talents particuliers, pour des services particuliers, pour un appel particulier, pour un exercice particulier, un positionnement particulier ou respectif dans le corps de Christ. Donc, savoir découvrir, reconnaître et développer ces dons que Dieu a placés en nous. Mais de surcroît à cela, il nous dit que ces dons ont été donnés par la prière et l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, savoir reconnaître aussi l'importance du leadership spirituel dans notre vie. Même en tant que pasteur, aujourd'hui en charge d'une église, Timothée devait quand même se rappeler l'exemple, l'apport et l'importance des anciens dans sa vie. Je vous dirais par exemple et par vécu personnel combien il est important pour moi d'avoir des gens auprès de qui je peux aller chercher conseil, auprès de qui je peux aller chercher sagesse, qui ont plus d'expérience que moi dans le service de Dieu. Et je sais que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai 5 personnes que Dieu m'a textuellement nommées avant que je n'opère la transition. Après le décès du pasteur Fontalvo, des gens auprès à qui j'écris et des gens à qui le Seigneur m'a dit « S'il te pose n'importe quelle question, en n'importe quel moment, tu es obligé de répondre en toute sincérité et en toute vérité. » Alors régulièrement durant l'année, soit je parle de vive voix avec ces gens, soit je leur écris pour dire où j'en suis rendu dans mon ministère, dans les défis qui sont devant moi. Et ils ont effectivement droit de regard et d'intervention. Il y a même quelqu'un que je dois appeler dans les prochains jours parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté. Il m'a demandé de l'appeler. Donc, voilà. Donc, importance de découvrir le don, mais aussi importance de reconnaître l'apport des anciens dans notre vie. Le verset 15, « Occupe-toi de ces choses. » Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Importance de la visibilité des progrès. Il dit que tes progrès soient visibles aux yeux de tous. Tu dois non seulement grandir devant Dieu, mais tu dois aussi grandir devant les hommes. La Bible nous dit que Jésus croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Et il est important que nous aussi, nous puissions croître, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Pourquoi est-ce important? Bien, premièrement, parce que le service auquel on est appelé est un service qui est voué aux hommes. C'est un service qui est voué aux gens qui nous entourent. Lorsque nous servons, on l'a dit tout à l'heure, nous ne nous servons pas nous-mêmes, mais nous servons ceux qui nous entourent. Et pour que moi, en tant que on va dire récipiendaire du service de quelqu'un, pour que je reçoive le service de quelqu'un, il faut que je croie en cette personne, il faut que j'ai confiance en cette personne, il faut donc que j'ai pu observer cette personne, et si je vois effectivement, de par ses fruits, de par son attitude, de par son cheminement, qu'il y a effectivement une crédibilité chez elle, je serai ouvert à recevoir le service qui est offert par cette personne. Et c'est donc normal que les gens puissent regarder ton service, qu'ils puissent juger ton service, qu'ils puissent se faire une opinion sur ton service. Il est inadéquat, inacceptable de ne pas accorder au coureur sa chance. Il est inacceptable d'être fermé et de se tenir ad vitam aeternam sur une fermeture en disant « je ne lui fais pas confiance » avant même qu'il ait fait ses preuves et de continuer là-dessus sans laisser la personne nous convaincre. C'est inacceptable. Toutefois, il est tout à fait normal de dire « si tu veux que je te fasse confiance, ben montre-moi tes fruits. » La Bible nous dit que c'est à ses fruits qu'on reconnaît un arbre. Donc, si je veux manger des fruits d'un arbre, je veux d'abord voir si effectivement ces fruits sont adéquats, ces fruits soient approprié. Et c'est souvent quelque chose qu'on a de la difficulté à accepter lorsqu'on commence à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu nous a appelés, on sait qu'il a déversé sur nous une onction, on sait qu'il a lancé sur nous un office ou un mandat particulier. Et comme Dieu nous a approuvés, ben on voudrait que les hommes aussi nous approuvent. Et ce faisant, on se frustre très régulièrement que les gens ne viennent pas à la même conclusion que nous et à la même conclusion que Dieu, que nous avons été effectivement appelés. Nous n'avons pas la science infuse. Les hommes n'ont pas la science infuse. Et à moins que Dieu ne révèle clairement, précisément à quelqu'un de façon spectaculaire et miraculeuse qu'effectivement l'onction a été accordée à tel ou tel frère, c'est au fruit qu'on va reconnaître la qualité du service et la qualité de l'arbre, de la vigne ou du sarment que nous pouvons plutôt représenter. Et le fruit, ça prend du temps. Donc, il faut que tu acceptes que les gens vont regarder tes fruits, vont regarder ta croissance, vont regarder ton progrès, et ce faisant, ils se feront une idée et accepteront effectivement que Dieu a déversé sur toi une onction. Tu dois accepter que les gens jugent ta progression, et il te faut t'assurer de progresser. Il te faut t'assurer que ce que tu es aujourd'hui est moins bien que demain, et ce que tu seras demain soit moins bien qu'après-demain. Nous devons aller de progrès en progrès, nous assurer que nos progrès soient visibles devant Dieu et soient visibles aussi devant les hommes. Dernier point, dernier passage, dans 1 Timothée, le chapitre 5 qu'on a lu tout à l'heure, je relis le texte pour vous. « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Donc, on nous dit ici l'importance des relations interpersonnelles. L'importance à accorder à comment on traite plutôt les gens devant nous. C'est un mauvais lapsus que j'ai fait. Comment on traite les gens autour de nous. C'est particulier que Paul dise à Timothée de parler aux gens âgés de ne pas parler rudement à des frères qui sont plus âgés, de parler à des femmes qui sont plus âgées comme à des mères. Pourquoi c'est particulier qu'il lui dise ça? Mais c'est particulier parce que un peu plus tôt, il va dire à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force et de puissance. Je suis timide de nature. Foncièrement, habituellement, on ne cherche pas la confrontation. On peut être maladroit à cause de notre timidité, mais habituellement, on cherche à passer jusqu'à un certain point assez inaperçu. Et là, malgré la timidité de Timothée, et je ne crois pas que Timothée était un violent et était un espèce de despote dans sa gestion de l'église d'Éphèse, mais Paul va malgré tout lui demander « Fais encore plus preuve de douceur. » Et il va dire « Voici comment tu dois t'adresser aux hommes plus âgés. Parle-leur comme si tu leur donnais une exhortation, comme si c'était ton père. » On s'entend que la Bible nous dit d'honorer nos pères et nos mères, d'honorer nos parents. Donc, lorsque je parle à un frère comme si je parlais à un père, je dois donc parler à ce frère avec tout le respect qui se doit. Est-ce que ça veut dire que je dois changer mon vocabulaire? Ben, peut-être que ça veut dire qu'effectivement, on doit changer notre vocabulaire. Peut-être que ça veut dire qu'effectivement, au lieu du « tu », je vais utiliser le « vous ». Peut-être que ça veut dire que au lieu de certaines blagues que je ferais à des gens de mon âge, avec certains frères plus âgés, je vais me retenir. Peut-être que je vais être porté à utiliser des termes, que je vais soupeser davantage pour utiliser plus de douceur. Et on nous dit « exhorter ». Donc, quand tu dois reprendre quelqu'un, un homme âgé, exhorte-le comme un père. Et exhorter, le terme exhorter veut dire, c'est le terme grec parakaleo, qui veut dire appeler de côté. Ça veut dire que tu ne confrontes pas la personne devant tout le monde en disant tu es un imbécile, tu es un bon à rien, tu n'as toujours pas compris, ce que tu as fait est mauvais. Non, on le prend de côté et on lui dit mais regarde ce que tu as fait, voici ce qui aurait dû être fait d'après la parole de Dieu. Donc on le prend à côté pour faire la remontrance et on fait la remontrance avec douceur et avec savoir-faire et avec du tact. Il va dire, lorsque tu parles à des jeunes hommes, parle-leur comme à des frères. Et notez une chose, il ne dit pas parle-leur comme à des jeunes frères. Il ne leur dit pas parle-leur comme à des frères cadets. Une des choses les plus pénibles pour quelqu'un qui est un cadet dans une famille, c'est lorsque la personne qui est aînée dans la fratrie, lorsque le frère ou la sœur est aînée, lui fait comprendre « Hey, je suis plus âgé que toi, donc j'ai droit d'aînesse, donc j'ai droit de regard sur toi, fais ce que je te dis parce que tu es mon plus jeune et mon cadet. » Je comprends que dans certaines cultures, ce soit la façon d'opérer, mais malgré tout, Paul va dire à Timothée, je crois que dans la culture judaïque et juive, il y avait effectivement cette notion de droit d'aînesse et de respect qu'on devait donner au frère ou à la sœur aînée. Mais ici, Paul va dire à Timothée, fais attention, toi en tant qu'ouvrier, toi en tant que serviteur, quand tu vas parler à des jeunes gens, parle-leur comme à des frères. Et à des frères, donc à des égaux, parle-leur comme tu aimerais, toi, qu'on s'adresse à toi. Il va dire, je vais prendre une gorgée, lorsque tu parles à des femmes âgées, parle-leur comme à des mères. On s'entend. Parfois, on peut tolérer qu'on parle contre nos papas. Mais en règle générale, surtout chez un garçon, on ne doit pas parler mal de sa maman. On est frustré lorsque quelqu'un parle de mal de notre mère, voire même certains serrent les poings et voudraient les utiliser. Donc on a ce respect inné, foncier qui est en nous, qui nous habite lorsqu'on parle en règle générale de nos mères. Donc on s'adresse à des dames âgées comme si elles étaient nos mères, avec toute l'affection, avec tout l'amour, avec tout le respect qui se doit. Et enfin il nous dit, lorsque tu parles à des jeunes sœurs, parle-leur comme à des sœurs, oui, mais en toute pureté. Il rajoute « en toute pureté ». Et là, c'est le clivage des genres, le clivage des sexes. Et il va dire à Timothée « tu es un jeune homme, donc assure-toi de parler à ces jeunes femmes comme à des sœurs, non pas pour... les enticher, non pas pour les draguer, non pas pour les émoustouiller ou émoustiller, non pas pour jouer sur les sentiments. Et je vous dirais qu'ici, allons-y des deux côtés. Si vous êtes une dame qui m'écoute ce matin, ben idem concernant un homme, un jeune homme, vous n'utilisez pas vos attraits personnels pour passer votre message. Vous devez lui parler comme à un frère. J'entendais un jour quelqu'un qui parlait à propos d'un frère ou d'une sœur plutôt, puis il disait « ben moi, je ne drague pas ma sœur. Donc quand je parle, j'enseigne, lorsque je pratique le ministère auprès d'une sœur, ben je la drague pas, je ne la courtise pas. Pourquoi? Parce que mon mandat est de porter la parole. Donc, ne pas utiliser notre ministère, ne pas utiliser notre service pour d'autres fins que d'enseigner, que d'exhorter, que de prodiguer la parole. Il y a trop d'occasions où on a vu des jeunes gens ou des jeunes femmes utiliser leur position dans un service ou dans un ministère pour d'autres fins que celle de partager l'Évangile. Et enfin, il termine en disant de honorer les veuves, donc d'avoir ce respect effectivement envers les veuves, d'avoir cette affection, d'avoir effectivement ce sentiment de prendre soin de la veuve qui a été éprouvée effectivement par le décès d'un époux. On sait que dans la culture juive, la veuve était un peu laissée à elle-même. Donc dans la famille chrétienne, il était normal de s'occuper, d'entretenir la veuve. Il y avait une responsabilité des enfants qui devaient s'occuper effectivement de leur mère qui était veuve, vous le verriez dans les versets qui suivent, mais il y avait aussi une responsabilité dans l'Église d'honorer, donc de prendre soin de la veuve. Idem pour l'orphelin, il est d'une responsabilité de l'Église de prendre soin de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger et de l'indigent. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu premièrement qu'il nous faut être un modèle. Lorsque tu te mets à servir, tu deviens un modèle, tu dois accepter ce fait-là et donc tu vas contrôler ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon d'agir, tu vas contrôler tes réactions, tu vas démontrer ta foi à travers tes actions et tes décisions et tu vas œuvrer en toute pureté, en respectant effectivement les principes de la parole de Dieu. On va aussi faire en sorte que dans l'exercice de notre ministère ou de notre service, nous ne perdions pas de vue l'importance de la parole de Dieu. Importance dans la lecture, importance dans l'instruction qu'elle me donne par rapport à comment je vis ma vie de tous les jours et importance que je lui consacre aussi quant à la connaissance, quant à l'apprentissage de notre Dieu. Importance de découvrir les dons qui m'ont été octroyés par Dieu et importance de la place dévolue aux anciens dans mon existence et dans ma vie. Importance par la suite de la visibilité de mes progrès, que mes progrès ont le droit d'être examinés, d'être sous-pesés, d'être jugés et que je dois m'assurer effectivement que ces progrès soient visibles à Dieu, mais visibles aussi auprès des hommes. Et enfin, l'importance des relations interpersonnelles. Comment je traite un homme plus âgé, comment je traite un jeune homme, comment je traite une femme plus âgée, comment je traite une jeune femme, comment je traite aussi ceux qui sont en nécessité dans le peuple de Dieu, veuves, orphelins, indigents. Alors voilà ce que nous avions pour nous aujourd'hui, l'exécution du mandat. J'espère, ça a été très concis, je vous invite à réécouter cet enseignement plus tard durant la journée pour reprendre des notes pour ceux qui en ont besoin ou juste vérifier un peu ce qui a été enseigné. Alors permettez-moi de prier, après ça on salue ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton enseignement, merci car tu nous appelles et tu nous enseignes afin d'être de meilleurs serviteurs à l'œuvre pour l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur de ce que tu ne nous laisses pas aller à l'aventure, mais de ce que tu nous éduques et tu permets à ta fille et à ton fils qui nous écoute ce matin de s'engager dans ce chemin du progrès, de l'amélioration pour être un témoignage honorable pour toi, auprès des fidèles, pour toi, auprès même des gens qui ne te connaissent pas, que tu puisses tirer honneur de notre œuvre, honneur de nos paroles, honneur de nos actions, honneur de nos réactions et de notre façon de vivre. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère, que ta grâce nous soit accordée et que nous puissions effectivement apporter les changements, les transformations qui se doivent dans notre façon d'être et dans notre façon de faire. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, juste saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Bonjour à Babette. Que Dieu vous bénisse, Babette. On prie aussi pour Andrea. Je ne sais pas s'il a déjà eu son opération. C'est aujourd'hui, donc on appelle. Permettez-moi de prier. Seigneur, je place Andreas devant toi, l'époux de Babette. Je mets non seulement l'opération qu'il a subie ou qu'il doit subir aujourd'hui entre tes mains, mais aussi, Seigneur, sa convalescence. Renouvelle ses forces, révèle-toi à lui et que ta grâce, Seigneur, lui soit accordée. Et soutiens aussi, Seigneur, son épouse, Babette. Merci Seigneur de ta bénédiction sur eux. Amen. On salue aussi donc la sœur Teresa, la sœur Anna Ruiz, le frère Carlos. On salue Tatiana. On salue Maggie, Tina, Christophe, les enfants. On salue Diane. On salue Annie Riverain. Bienvenue parmi nous. On salue qui d'autre? Mildred, Dieu te bénisse. Et c'était donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, c'est notre journée de jeûne et de prière. Donc demain, deux rendez-vous, demain matin à 8h30 toujours pour nos bénédictions matinales. Ce sera un temps de prière sur tout ce qu'on a enseigné cette semaine. Et puis demain soir pour clore notre journée de jeûne et de prière à 19h, même un peu avant encore, pour se saluer. Donc demain, deux rendez-vous, le matin à 8h30 et le soir à 19h. D'ici là, passez une bonne journée. Que vos progrès soient évidents aujourd'hui et que vous soyez de bons serviteurs entre les mains du Seigneur et à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.